Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 6, ici Sullivan Le Postec. On rigole un petit peu parce qu'en fait, bon, allez, on vous avoue, on plonge dans les coulisses de la fabrication de ce podcast, mais on vient d'enregistrer celui d'il y a 2 semaines, il y a à peu près 10 minutes, donc là on est chaud, on est parti. Hein.
Et toute donc, la nuit, ça va être tous les podcasts de l'année.
Bonjour à tous en passant.
Et donc Émilie Flamand est avec moi, ainsi que Dominique Montet.
On s'est pas sauvés.
Juste avant de partir en vacances au mois de juillet à la Comic Con, Dominique nous avait lancé un défi qu'il avait habilement repiqué du podcast de tv.com/UK. Et qui était donc voilà, chaque membre de la rédaction confie à ses deux collègues des séries à découvrir, à regarder qu'ils n'avaient pas encore vues. C'était nos devoirs de vacances, ils ont été accomplis, on vous en fait le débrief aujourd'hui.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, à ta dame, au tout cadet, à cheval sur mon billet. Fais pas tes doigts dans le nez, juste au port ton cou. Qu'est-ce que t'as renversé, fais tes yeux ou ta bouche. Pour pointer ton vilain, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon portons tout. Fais pas si, fais pas ça, à ta dame, au tout cadet, à cheval sur mon billet. Laisse tomber, travailler, viens t'en faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci, à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la carte. Fais pas si, fais pas ça, à ta dame, au tout cadet, à cheval sur mon billet. Fais pas si, fais pas ça.
Je voudrais commencer par demander à Émilie pourquoi est-ce qu'elle a voulu proposer à Dominique de regarder Clara Schumacher.
Pourquoi
hein, pourquoi
parce que Dominique avait plein d'autres choses que j'avais en tête et c'est vrai que le Clara Schumacher m'est venu d'un coup, je me suis dit ça m'étonnerait que Dominique l'a regardé et l'a regardé entier. Donc, après, ça s'est fait un peu naturellement. Non, plus sérieusement, moi, c'est une série, Clara Schumacher, qui, on va le voir avec Dominique, vu qu'il le pointera, a peut-être ses défauts, mais qui, moi, m'avait beaucoup accroché. Et c'est une des premières séries françaises, en fait, sur laquelle j'ai vraiment accroché.
Contexte, Clara Schumacher, 2005, dans France Télévisions, dirigée par Marc Tessier. Laurence Bachmann est directrice de la fiction. Elle a déjà vraiment confirmé le saut du 52 minutes dans la case du vendredi soir avec les policiers. Elle veut continuer dans cette veine et lancer des 52 pour la case du mercredi à l'époque, qui était la case plus sociale, famille, société. Elle veut lancer des séries, elle lance un appel d'offres, etc. Pas énormément de séries arriveront au bout à la fin, mais Clara Schumacher en fait partie. Il y en a une autre qui s'appelait Fête de famille et il y avait eu David Noland. Et parmi ces deux-là, donc notamment David Noland et Clara Schumacher ont vraiment cartonné à l'époque. Clara Schumacher, 6 millions de téléspectateurs, ils avaient réussi à battre Jean-Pierre Pernaut et son combien ça coûte un soir sur TF1. Ce qui n'arrive pas toujours sur France 2. Dominique, tu as donc vu ça cet été. Qu'est-ce que tu en as pensé?
J'en ai pensé que je l'ai peut-être vu 5 ans trop tard. Parce que j'ai trouvé ça, alors, ça va être dur, hein, un peu vieillot. Carrément daté. Je comprends que les thèmes qui sont développés à l'intérieur étaient extrêmement novateurs pour la télé à cette époque-là. J'ai l'impression qu'on a fait un bond de 30 ans entre 2005 et 2010. Mais je me dis qu'à l'époque, j'aurais trouvé ça percutant et choquant. Aujourd'hui, beaucoup moins.
De quoi ça parle?
Donc, Clara Schumacher est une jeune femme difficile. Complètement taré, qui n'arrive absolument pas à atteindre son rêve, qui est en gros le prince charmant, la vie de famille, et qui se retrouve en colocation avec son meilleur ami, qui est homosexuel. Donc c'est un peu une relation de codépendance qui se tire méchamment vers le bas. Mais dont ils peuvent pas se séparer.
C'est avec Mélanie Doutet.
C'est avec Mélanie Doutet qui est formidable, Frédéric Diefenthal qui est
moins formidable.
Dedans.
Dans les Devoirs, c'était la saison 1, on précise, parce qu'en effet.
Oui, parce qu'après ils ont changé de visage. Moi, j'ai eu énormément de mal avec les personnages. Clara Schumacher, j'avais tellement une impression de copie carbone beaucoup plus joli à regarder qu'Ally McBeal, mais quand même une copie carbone d'Ally McBeal. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de JP. Pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui l'avaient vu, visiblement, ils avaient cherché à faire un décalage entre l'image du gay qu'on se fait et donc Frédéric Diefenthal, qui a rien d'un gay. Et le problème, c'est qu'il a jamais rien d'un, quelque chose d'un gay. Quand il est dans une boîte et qu'il annonce en s'habillant comme un hétéro, qui dit « je me déguise en hétéro pour aller dans une boîte gay », on croit jusqu'à la fin que c'est un hétéro dans une boîte gay. Donc moi, j'ai eu du mal avec pas mal de personnages, certains beaucoup plus que d'autres. Donc il y avait le personnage du fils du patron de Clara Scheller, qui est absolument abominable.
Catastrophe.
C'est juste totalement improbable comme écriture.
C'est grandiose avec ce personnage, c'est que c'est de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que c'est écrit n'importe comment, ah oui, et qu'au final, c'est joué n'importe comment.
Et c'est bazardé n'importe comment.
Et ça disparaît. Mais c'est juste. C'est un ratage du début.
C'était horrible. Je l'aurais excusé sur une série qui a 22 épisodes dans l'année où des fois tu te retrouves avec des personnages boulets. Tu te dis, bon, allez, on va s'en débarrasser. Là, quand même, c'est une série qui avait été écrite, tournée, tout dans la foulée, donc ils savaient quoi en faire. Il y a 6 épisodes, donc on peut même pas se dire qu'au bout d'un moment le créateur en a eu marre, il se dit bon allez je me débarrasse de celui-là. Non, c'est juste qu'à un moment il disparaît, heureusement, parce que la série avec lui pendant 6 épisodes, je crois, je ne sais pas si j'aurais tenu. À côté de ça, il y a des personnages plutôt bien, bien faits. Donc, il y a un personnage de voisin qui habite en dessous de Clara et JP, qui est menuisier, c'est ça
ouais.
Qui est très bien interprété et plutôt bien placé comme personnage.
Par Thierry Neuvik,
très bon comédien.
Bah, il est un peu le pivot autour duquel on va tourner la vie de ces deux personnages complètement barjots.
Voilà, tout à fait.
En gros, l'argument de la série, c'est que donc, aussi bien Clara que JP sont à la recherche du prince charmant.
Exactement.
Et que les deux voient en Gilles, le voisin du dessous, un potentiel prince charmant avec qui ils pourraient vivre de beaux jours heureux.
Alors après...
Il y avait un personnage... Pour contrebalancer, oui, parce qu'on a parlé de ce personnage catastrophique qui est dans 2-3 épisodes du fils de Christophe Malavoie. Et il y avait un autre petit personnage comme oui, ça de guest que je vais par Cyril Descours et que moi j'avais trouvé très réussi à l'époque.
Le jongleur.
Ouais.
Très très bien. Oui, très ouais, très bien. Mais il souffre complètement. C'est l'antithèse du personnage du fils. Quoi. C'est... Le personnage du fils du patron, pour expliquer, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un gay parce qu'il adore la culture gay, il adore la musique.
Et il trouve ça trop cool.
Et il trouve ça trop cool, trop génial, c'est terrible. Il cite Madonna dans les toilettes.
Et on va jipper, on va en boîte chez les gays, c'est trop cool, il met de la musique, trop classe. Et en plus, la scène de boîte typique de série française où il y a deux figurants qui sont pas bien réveillés, il est 9h du matin, et la pire soupe, la daube de daube que jamais vous entendez dans une boîte gay, si vous voulez, qui passe derrière parce qu'ils ont eu les droits d'acheter que ça. Donc c'est un sample de Jean-François Porry sur son bon tant pis qui fait poum 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 poum. Et là t'as le personnage qui est super branché au top de la hype. T'as vu la musique JP, ça déchire trop quoi.
Voilà, c'est ça la teneur du personnage. Et Sullivan n'exagère pas. Limite même, il est un ton en dessous. Et à côté de ça, donc il y a le personnage d'un jeune gay qui... dont JP tombe amoureux, attention à ne pas faire d'inversion, et qui est extrêmement juste. Et il arrive, même s'il fait énormément de mal au personnage de JP, à être extrêmement touchant, de par son jeu, de par la nature même du personnage. Une sorte de profiteur sans s'en rendre compte, en fait.
Je me rappelle que je l'avais appelé un ange baiser.
C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et il est très réussi, par contre, ce personnage-là.
Il est dans l'éphémère, il est dans l'instant.
C'est un jeune qui ne se pose pas de questions. Voilà, JP, lui, il cherche le prince charmant. L'autre, il est juste là pour prendre du plaisir avec la vie. Et c'est, ouais, bon, bah, c'est deux notions différentes de l'existence. Et c'est juste qu'ils ne se rejoignent pas là-dessus. Mais sinon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de choquant dans ce personnage-là. Au contraire, c'est extrêmement touchant.
C'est un des premiers trucs dans lequel j'avais vu Cyril Descours, qui est assez excellent, qu'on a vu dans un segment d'I Love Paris, ça s'appelle, ce ouais, film à court-métrage, et qui sera dans la prochaine saison d'Un village français, qui va passer très très prochainement. Et moi, pour revenir sur ça, c'est vraiment pour moi le paradoxe de Clara Scheller est là, c'est-à-dire que Clara Scheller, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la coexistence de ces deux personnages, un qui est une catastrophe d'écriture, de tout, et un qui est une vraie réussite. Et voilà, Clara Schiller, pour moi, navigue constamment entre ces moments de grande réussite et ces moments de gros échecs. Et il n'arrive pas à savoir, j'ai l'impression, l'auteur, les prods, la chaîne, les réalisateurs, quand est-ce qu'ils sont justes et quand est-ce qu'ils sont mauvais.
Oui, tout à fait, oui. Et on a cette sensation-là pendant toute la saison qui oscille entre le touchant, le réussi, le même poignant à certains moments. Les personnages de Clara Scheller sont face à des choix qui sont quand même assez monumentaux. Ouais. Quoi. C'est pas rien. Garder un bébé ou pas, comme sujet dans une série française, c'est hyper gonflé.
La notion puis même par rapport, surtout parce qu'il y a le personnage de Clara et il y a le personnage de JP, où c'est encore plus...
Quel rôle il a joué dans l'avortement.
Est-ce que lui, en plus, qui se retrouve, qui n'y croyait pas, qui aurait voulu, qui a ce besoin, qui avait fait plus ou moins son deuil d'enfant, vu que actuellement, on va dire, la loi française ne lui permet pas d'en avoir, et qui là se retrouve devant cette éventualité improbable, et se la retrouve et la perd tout de suite. Donc c'est. Il y a des trucs qui sont franchement...
Et autant dans certaines séries, les revirements de personnages, finalement je veux, finalement je veux pas, je veux pas, qu'on voit certaines fois, on a l'impression que c'est un peu incohérent, là ils le sont pas du tout. C'est-à-dire que le personnage de JP, à un moment, il se dit non, je veux pas d'enfant, c'est niette. Puis au final, il finit par se dire j'en veux un, jusqu'à finir par en vouloir à Clara quand... attention, spoiler, elle décide d'avorter.
C'est une série d'il y a 5 ans.
Mais quand même, on ne sait jamais.
Surtout que je l'ai dit il y a 3 minutes, ça aurait été spoiler.
Donc... C'est vrai. Bon, attention, 3 minutes, il y avait un spoiler.
Le salaud, c'était moi, vous avez vu que 2 minutes, c'est vachement plus sympa.
Ouais, c'est bien connu. Et même après coup, donc, il lui en veut énormément d'avoir fait ça, mais... Non, après, il y a plein de choses très, très réussies et surtout très ratées. Quoi. Enfin, moi, la vision du travail parisien est absolument formidable. Donc, on a l'impression qu'ils ne travaillent jamais, ces gens-là. Ils vont au boulot quand ils veulent. Même quand ils sont en congé, ils demandent à leur patron...
Seul moment de la série où Clara travaille.
C'est là où elle travaille. Elle est toujours super débordée, mais elle prend des pauses déjeuner à 15h, en plus de la pause déjeuner de midi.
Pour aller regarder les mecs dans les cafés.
Enfin, franchement, ce boulot-là...
T'es en train de briser mon rêve de boulot parisien, là. Tu t'en rends compte?
Alors moi, j'ai un boulot parisien, ça ressemble pas du tout à ça, hein. Mais si vous en connaissez, vous me dites, parce que je suis preneur, ça a l'air d'être la planque formidable.
T'as pensé quoi des parents de JP, notamment de sa mère?
Eh ben la mère, j'ai bien aimé.
Ouais. C'est un souvenir de fou rire absolument.
Elle est hyper touchante, très réaliste. Et alors après, elle a son côté, le côté un petit peu peur de toujours mal faire, qui est surappuyé, sursurligné pour déclencher le rire. Mais c'est pas gênant parce que ça passe bien. Mmh. Et sa relation avec son fils, c'est plutôt réussi. J'aime moins le revirement au final du personnage, où là, d'un seul coup, on a l'impression qu'elle est un peu sous Prozac, extrêmement calme, extrêmement sereine, à prendre du recul sur son existence, qui est absolument pas amené dans toute la série.
C'est toujours pareil, sur 6 épisodes, c'est trop court.
Trop court pour développer un personnage comme ça. Mais sinon, j'ai plutôt aimé. Après, le père, bon, c'est autre chose. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont été un peu piégés par leur casting et que du coup, ils n'ont pas pu lui faire grand-chose au bonhomme.
J'ai une petite question perverse pour Émilie. On a dit que Clara Scheller, c'était une série qui était assez girly, etc. Mm-hmm. Et que ça faisait partie des choses qui t'avaient attiré. Moi, l'un des problèmes que j'ai avec Clara Scheller, que j'aime bien, hein, c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, même si je trouve qu'elle a énormément de défauts dans ces deux saisons.
Ouais, par rapport à l'époque, c'est vrai que...
Voilà. Un des paradoxes que je lui trouve, c'est que la série est très girly, mais que je la trouve aussi assez misogyne. Ça t'a pas dérangé, toi?
Oui, non, parce que en même temps, ce côté justement irréaliste au niveau de son taf, au niveau de cette vie parisienne qui est vraiment ce que j'appellerais moi les pintades. Il y a des bouquins, il y a une série de bouquins des pintades, etc. Et c'est tout à fait ça. Elle a ce côté pintade, c'est-à-dire que vous prenez je peux sortir mon sac, j'ai un Cosmo dans mon sac, vous prenez Cosmo, les rubriques, etc. dans Cosmo, c'est ça, c'est Clara Scheller. Point. Donc il y a cette distance qui de base se fait aussi naturellement par rapport du coup au public féminin. Tu disais tout à l'heure que justement, je précise, c'était en aparté avant de commencer le podcast, Dominique me disait que justement il ne comprenait pas forcément comment on pouvait s'identifier à ce type de personnage. Mais c'est un modèle, c'est un point un peu qu'on peut avoir en référence par rapport, nous, au niveau féminin.
J'ai le même problème avec les personnages de Sex and the City, et pourtant,
oui,
ça
n'empêche pas de projeter des choses.
Tout à fait.
Tu t'identifies pas complètement, mais on peut projeter. Donc, elle a ce côté très girly, qui peut tendre aussi le côté potiche, le côté, tout ce que tu veux à ce niveau-là, parce qu'elle a la totale par rapport à son patron, par rapport à tout son histoire avec son patron, le côté avec ses collègues de boulot qui sont « Oh là là, Clara, machin !» C'est pareil, enfin, en plus, moi, étant dans un milieu purement masculin au boulot, c'est complètement l'inverse. Mais donc, ça met une distanciation. Et c'est ça qui te permet à la fois de trouver des points communs et à la fois de pas pouvoir brandir le coup du « c'est une honte » et c'est à l'inverse du féminisme et de tout ce qu'on a pu faire depuis 30 ans. Quoi.
Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai que du coup, la mère de Clara Scheller est beaucoup plus un vecteur de féminisme que Clara Scheller elle-même. Parce que la mère de Clara Scheller, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, ce qui n'est pas le cas de... Enfin, ce qui ne donne pas l'impression d'être le cas pour Clara Scheller. Elle recherche le prince charmant. Sa mère, c'était pas « je recherche le prince charmant ». Il y a un superbe échange entre les deux quand elle explique qu'elle a eu trois bonheurs dans sa vie. Le premier, la naissance de Clara Scheller. Le deuxième, le fait que l'avortement était devenu légal et la naissance de son deuxième enfant. Je trouve ça super poignant, super intéressant. C'est dans ces moments-là que la série... En fait, c'est quand la série se pose
sur qu'elle arrive plus générationnelle.
Voilà, qu'elle devient intéressante. Quand elle est trop axée sur ses personnages, que je trouve assez inconsistants, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a d'autres défauts. Moi, j'ai ressenti quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, j'avais l'impression que les scènes ne s'arrêtaient pas au moment où elle devait s'arrêter, mais restait encore quelques secondes après.
Oui.
On a l'impression de rester trop longtemps dans la scène. Et il y a des fois, c'est cruel, mais j'avais l'impression que c'était pour faire 52 minutes. On a laissé un petit peu plus. Et ça m'a choqué, ça me fait sortir au niveau du rythme.
Dans mon souvenir, ça faisait partie des choses qui étaient pas mal améliorées par la saison 2. Mais en termes de technicité, le rythme et la structure des épisodes de la saison 1 étaient parfois super poussifs.
Oui.
Il y a qu'un seul épisode que je trouve réussi à ce niveau-là, qui, si je me souviens bien, le troisième. Mais sinon, effectivement, c'est trop long. Globalement, les épisodes n'ont pas de colonne vertébrale.
Non.
Ils se dispersent vachement. Structurellement, ils sont très fouillis. Et donc, du coup, ça aide pas à trouver un rythme, quoi. Et du coup, ça se traîne, et puis pouf, il y a une petite avancée de l'intrigue, et puis on rampe encore un peu.
Il y a plein de petits détails de problèmes de rythme, comme...
Mais t'es pas sur le même type de structure non plus, narrativement. C'est-à-dire que pour moi, tu restes quand même sur une question qui va plus être des problématiques. Moi, je la voyais plus comme ça aussi. C'est-à-dire que t'as une problématique plus féminine, etc. Et t'as une question de génération, ce qu'on disait tout à l'heure, et qui est importante sur cet aspect-là.
Non, mais ça,
parce
c'est intéressant.
Son personnage... C'est avant tout ce point de génération, ce côté maintenant on n'est plus dans les problématiques de s'affirmer ou autre, qu'est-ce que on a comme idéal à une trentaine de balais actuellement dans nos générations.
Ouais, sauf que ça drive pas assez les épisodes, quoi. Et pour moi, en termes de structure, le problème que j'avais, c'est que globalement, je trouve que la structure de la série est très très inspirée. C'est un hybride d'Ally McBeal et de Sex and the City.
Oui, complètement, oui.
À la différence qu'on a expurgé des épisodes d'Ally McBeal et Sex and the City, soit les procès d'Ally McBeal, soit les articles qu'écrivait Carrie dans Sex and the City et qui donnaient une colonne vertébrale à l'épisode. Et donc, du coup, il ne reste plus que le corps sans colonne vertébrale. Et ça
donnait presque l'impression, quand on regarde la série, étant donné qu'en gros, mon Clara s'occupe du coup des courriers des lecteurs d'un magazine, donc ça fait un parallèle de plus avec Carrie Bradshaw Sex and the City, et que malgré tout ils sont pas allés au bout du truc en se disant tiens, on va driver par rapport à ça va être nos axes, ça va être son travail, comme ça va donner une justification au boulot qui n'en a strictement aucune, si ce n'est de faire du remplissage, là pour le coup c'en est. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des axes, mais les axes, on finit par les deviner aux alentours de la 40e minute. Voilà, s'occuper de sa petite nièce qui vient de naître. Le truc est assez amusant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle se fait passer pour sa, elle se fait passer pour sa mère dans un parc. C'est assez drôle. Puis ça dit bien un petit peu le caractère complètement azimuté de la. Parce que personne de sain d'esprit ne le ferait. Mais c'est assez amusant, c'est assez réussi. Mais sorti de ça, après, voilà, il y a l'épisode spécial où elle part en vacances. Alors, celui-là, c'est vraiment une calamité. Ou quand même.
J'ai particulièrement aimé la musique dans cet épisode.
Et je suis désolé, quand on fait une série, on a le son générique. Le générique est rechanté trois fois par les protagonistes de la série. C'est comme quelqu'un qui dirait, bon là, en l'occurrence, c'est un nom de personne, hein, mais qui dirait le titre de la série trois fois dans l'épisode pour bien appuyer le truc. Non, c'est. Voilà. Pour dire que j'ai pas trop apprécié Clara Scheller.
On enchaîne parce qu'on est resté longtemps sur Clara. On est resté longtemps sur Clara.
Il y a pire.
Enfin, ça dépend.
Restez calme, messieurs.
Bon, ça va.
Ensuite, pour enchaîner, moi j'avais proposé à Émilie de regarder Fais pas ci, fais pas ça. Alors, Fais pas ci, fais pas ça, j'avais voulu qu'elle regarde ça parce que ça fait partie des séries dont on parle beaucoup en France actuellement. Une comédie, alors qu'il y en a pas 50, c'est le moins qu'on puisse dire, il doit y en avoir 3, en gros.
Et encore, renouvelé, moi ça dépend.
Voilà, hein. Et comme elle ne l'avait pas vue, je trouvais ça intéressant qu'elle la voie et je lui ai proposé de regarder la première saison, qui sont 12 épisodes d'une quarantaine de minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de Fais pas ci, fais pas ça?
Moi, j'avais abordé Fais pas ci, fais pas ça, on va dire, naïvement. J'ai pas cherché au départ à essayer, déjà à voir si j'accrochais au concept et au personnage, et j'ai eu du mal sur le démarrage. C'est-à-dire qu'il y a des choses très drôles par moment, il y a des moments, le fameux à table où elle hurle, elle est juste géniale là-dedans, et ce personnage-là a un petit côté. Très comique, mais tous les personnages ont ce côté un peu bien arrêté, bien comique. La structure au départ, bon, de l'idée du reportage, machin, sur des familles, deux éducations différentes. Ok, le concept est posé, pourquoi pas, au contraire, l'idée est plutôt bonne, surtout on est encore une fois dans une question un peu plus générationnelle, etc. Donc moi j'adhère, c'est le genre de truc qui, de base, doit me plaire. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu l'empathie sur le début, parce que justement, j'ai trouvé que c'était un peu trop sur du réflexe. Il y a un petit côté comique, hop, ça passe à autre chose, etc. Le rythme était pas toujours là. C'est-à-dire qu'il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui est l'épisode où ils font l'anniversaire des deux gamines, et je trouve que c'est le meilleur de la saison. C'est-à-dire qu'au niveau structure, il est excellent. Au niveau rythme, il est très bon. Au niveau personnage, tout compte fait, en regroupant les deux familles, en synthétisant en un lieu, ils gagnent. Ils arrêtent de se disperser dans tous les sens, entre l'école, le gamin machin, le deuxième gamin. Ils ont tellement de protagonistes qu'au bout d'un moment, ils les oublient. Et c'est le seul épisode où vraiment, là, j'ai trouvé quelque chose de vraiment excellent. Après, au fur et à mesure de la saison... Oui, j'ai créé une empathie sur les persos, mais ça a été plus poussif que je ne l'aurais pensé. C'est-à-dire que c'est parce que aussi je savais que j'allais regarder la saison entière que je l'ai regardée. Je suis pas sûre que sinon j'aurais pas plutôt zappé sur les épisodes de temps en temps en tombant dessus. On en avait discuté un peu, j'ai poussé un peu sur la saison 2, j'ai pas tout vu de la saison 2. C'est pas la même histoire. Tu m'avais prévenu. Je l'ai constaté, et en effet, du coup, la saison 1 prend une dimension largement meilleure.
Tu n'as pas vu, toi, Dominique, hein?
Non.
D'accord.
Ça sera pour l'année prochaine.
Ça va être une discussion seulement entre Émilie et moi. Je pense que tu as bien... T'as assez bien défini, à mon avis, ce qui fait pas ci, fait pas ça. Je pense que tu as pointé ce qui, à mon avis, est le problème principal de la première saison... notamment quand tu as parlé du rythme et de ce que ça pouvait créer comme problème. Bon, c'est le point noir principal de la saison et ça me met un peu colère parce que c'est un point noir qui a été collé par la chaîne sur la série, qui n'aurait pas dû avoir ce problème-là. À la base, donc Elephant Story, la boîte de prod, a développé ça comme une série de 26 minutes. Et puis, le pilote était déjà écrit et il y a France 2, il y a Tartampion qui s'est réveillé, qui a dit non mais en fait on veut remplir une case de 45 minutes et donc du coup il fallait gonfler les épisodes pour leur faire attendre 40-45 minutes. Voilà, donc j'ai Dominique à ma gauche qui secoue la tête d'un air consterné. C'est exactement ça et c'est vraiment, mais on retrouve ça à la télé française tout le temps. C'est invraisemblable, on passe notre temps à inventer des formats couillons qui veulent rien dire. C'est, je veux dire, il y a, mais il y a un moment donné, c'est pas pour rien.
La preuve, il y a que... pas de créatif en France. Ouais. Mais voilà, on invente des formats.
On a un format pour vous, 103 minutes.
C'est pas pour rien que les comédies dans le monde se sont calées sur un format 26 minutes. Et c'est, enfin, on n'est pas plus fort que tout le monde. Si tout le monde en est venu à se mettre à ce format-là, ben c'est tout simplement parce que c'est le format idéal pour la comédie.
Vous avez raté un magnifique mime de Sullivan.
Et donc du coup là on t'essaye de te rallonger ça pour te passer un heure de sitcom au format drama. Et bien si le format drama convenait aux sitcoms, et bien ça fait longtemps que les sitcoms elles auraient tout adapté le format drama. Toutes les chaînes ça les arrange si elles pouvaient combler une heure de programme ou donc de combler 26 minutes. Simplement les chaînes américaines se sont dirigées par des gens intelligents qui respectent d'abord l'intégrité et la qualité de leur programme plutôt que de vouloir absolument elles étaient, c'est peut-être moins le cas maintenant sur les networks.
Ouais. Il y a quand même une réalité économique après derrière qui va.
Mais en tout cas, ils respectent vraiment la qualité des programmes et la logique et ils veulent absolument que le programme soit le meilleur possible.
C'est eux qui l'ont créé aussi derrière ce formalisme-là, donc derrière ils le respectent maintenant qu'ils l'ont créé et qu'ils l'ont mis en place.
Les Anglais l'utilisent, les Américains l'utilisent, oui, ça fait un petit peu nous on est meilleurs que les autres, on va vous prouver que ça marche en 45 minutes alors qu'il y a 50 ans d'évolution sur le problème.
Voilà, c'est ça. Et donc, basiquement, ça crée des épisodes qui sont des 26 minutes super drôles et super rythmés avec 10 minutes, 15 minutes de comblage rajouté là-dedans. Des fois ça marche un peu, des fois c'est vraiment c'est... on sent voilà.
Mais les trois quarts c'est ça, c'est que tu dissous l'efficacité que ça pourrait avoir et tu dissous tes personnages aussi. Voilà. C'est-à-dire que tu dissous à la fois le rire mais l'émotion. Donc tout compte fait, oui tu t'y attaches à force, mais c'est vraiment le à force quoi, c'est le terme, c'est poussif.
Moi j'avoue que par contre j'avais été quand même vraiment super agréablement surpris et bien accroché par le tout premier épisode. Alors après il y a une grosse différence dans la manière dont j'ai abordé la série puisque toi tu l'as vu après deux ans alors que tu as entendu parler
de ça
voilà, pendant longtemps. Nous en fait France 2 avait foutu l'épisode en ligne sur son site internet avant la diffusion et donc j'avais été le voir franchement en m'attendant à rien. Ils avaient lancé un appel d'offres pas très longtemps avant, Elephant Story, qui est la boîte d'Emmanuel Chin, c'était sa première fiction et ça débarquait là. Honnêtement j'ai lancé le player en étant persuadé que j'allais voir une daube, quoi. Ce qui, franchement, ça avait toutes les chances d'en être une. Et sauf que là, on tombe sur un truc qui était quand même... Il y avait quand même de vraies finesses dans l'écriture. Il y a une interprétation des quatre acteurs principaux, des quatre adultes, en fait, qui est géniale, et notamment, effectivement, la famille... les Le Pic,
oui.
La mère qui est juste... Virginie, non ? Bonneton, elle s'appelle. J'ai perdu son prénom. Enfin, c'est une actrice absolument géniale et elle a trouvé le rôle. Elle a trouvé son rôle, quoi.
Oui,
et
puis elle a l'ensemble. Elle a une capacité physique parce que bon, pour l'avoir vu récemment dans Les Petits Mouchoirs Rouges, elle a cette forme physique qui va très bien aussi avec le personnage et dans l'ensemble, dans sa façon de parler, le rapport avec les enfants, etc. Donc il y a plein de bonnes choses hein, sur les rapports entre les protagonistes sont bons. Ça sonne juste le lien avec les gamins, la façon dont ça se joue derrière, même avec dans ces deux familles et le côté parce que dans l'autre famille, donc justement pas la famille Le Pic, il y a quand même la fille aînée qui est la belle-fille de Bruno Salomon dedans, qui donc il y a une autre complexité, famille un peu recomposée, cette différence d'ambiance, cette différence de milieu social, enfin surtout le côté très bourgeois cato et de l'autre côté l'aspect beaucoup plus, enfin le père qui se retrouve au chômage donc la mère qui... donc on a un ensemble de traits qui sont très justement représentés. Le seul gros point c'est vraiment ce rythme qui plombe l'ensemble. Après au niveau des intrigues c'est suffisant, c'est à dire que il y a pas besoin d'en mettre trois couches, qui a été l'erreur après dans la saison 2 de ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas tout vu, j'ai juste vu la fin et qui se finit avec une histoire de chambre froide etc. dans un chapeau avec un trafic de prostituées, si je me trompe pas, et des flics qui débarquent, des fusils. Enfin, ça part en vrille, c'est un truc de psychopathe.
Cet épisode est l'un des trucs les plus mauvais que j'ai vu à la télé française depuis 20 ans.
Bah, en fait,
pour partir d'une série qui est aussi bonne et aussi charmante et aussi sympathique que Fais pas ci, fais pas ça, et en livrer un épisode qui est un tel ramassis d'idiotie.
C'est une famille formidable sur France 2, quoi.
Mais sauf qu'une même une famille formidable, il y a eu des moments où c'est parti en live, mais il y a eu des moments où c'était bien.
C'est les derniers épisodes.
Mais oui, c'est une famille formidable quand ils se crachent sur une île déserte.
Voilà, et voilà. Qui sont pris en otage.
Et voilà, ça devient n'importe quoi.
T'as loupé des
choses,
moi.
Bon, et oui, en gros, l'histoire de cette saison 2, c'est France 2 qui avait décidé qu'elle n'avait pas assez niqué le format de la première saison, qui décide donc de commander une saison 2, mais de la passer en prime time. Parce que dans la case de 19h où ça avait passé, ça n'avait pas vraiment marché. Je pense qu'ils n'ont tout simplement pas laissé le temps à la série de s'installer, mais bon, c'est un autre débat. Après, s'installer sur 12 semaines, c'est pas facile non plus, il n'y a pas assez d'épisodes. Je ne sais pas s'ils auraient été capables d'en produire plus à l'époque ou pas, s'ils avaient voulu. Bon, et donc, mais France 2 se dit ah, mais c'est du prime time. En prime time, il faut des enjeux, parce que sinon, les gens n'y restent pas, ce qui prouve encore une fois que ces gens n'ont rien compris à la télévision, quoi. Et à ce que c'est qu'une série télé. Je veux dire, regardez Lost, les gens n'avaient rien à foutre de l'île et de machin, tout ce qui s'intéressait, c'était les rapports entre les personnages. Et ce qui fait que même la fin, qui a pas plu à plein, enfin, à certaines personnes, a plu au cœur de spectateurs de Lost, parce que du moment que les personnages se retrouvaient, qu'ils étaient amoureux, qu'ils étaient contents, les gens sont contents. Donc, il n'y a pas besoin d'enjeux à la mort moelle-neu, quoi. N'amenez pas des chambres froides et des putes de l'Est, ça sert à rien, et des trafics immobiliers dans une pauvre ville de banlieue. Enfin, c'est...
Surtout pour que ce soit aussi ridicule, vous n'allez pas sauver quelqu'un qui est coincé dans un trafic de prostituées dans un château en emmenant toute votre marmaille, et même le gamin de 2 ans, au milieu d'une salle de restaurant vide, où vous voyez des mecs avec des fusils. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter.
Je n'ai pas vu Fais pas ci, fais pas ça. Cette conversation me semble extrêmement surprenante. Je n'y comprends rien, personnellement.
Je suis désolée, mais c'est...
C'est pas du tout l'idée que je me faisais de la série.
Donc, la saison 2 et alors, on retrouve un peu les personnages qu'on aime assez, etc. Mais cette intrigue plombe la saison. Et plus il y a 6 épisodes, donc au fil de l'intrigue, plus elle prend de l'importance. Et le 6e épisode parle pratiquement que de ça. Donc, c'est un cataclysme.
Ouais. Coupez-le, regardez-le pas.
Regardez pas la saison 2, franchement. Et voilà, moi j'avais, à cette étape-là, j'avais quasiment tiré un trait sur la série. Sauf que la saison 3 arrive à partir du 22 novembre, je crois. J'ai vu les 4 premiers épisodes sur les 8 épisodes qui ont été tournés. Et c'est de nouveau vachement bien. Ils ont oublié un trick principal, conspiration immobilière, les voisines mortes ressuscitées et tout le machin.
Non, mais t'as raté des choses, il faut que tu le vois. C'est...
Il manque que les extraterrestres dans votre histoire.
Franchement, limite. Hein.
Remarque, ils auraient peut-être pu les caser.
Dans le 6e épisode, limite. La soucoupe volante atterrissait pour sauver les Lepic et les Boulages.
Voilà, de la salle de la chambre froide.
Je t'ai pas surpris. Hein.
C'est un truc.
Et donc franchement, les nouveaux épisodes sont très très réussis. Ils arrivent à bien gérer du coup le format dramédie, parce qu'ils sont vraiment, ils ont été ramenés à 52 minutes. Et voilà, et là c'est assez réussi, et on retrouve aussi les personnages des ados notamment qui se remettent à vivre des trucs plutôt que d'être des figurants d'arrière-plan comme dans la saison 2. Donc n'hésitez pas à regarder la saison 3 de Fais pas ci, fais pas ça, même si vous n'avez pas du tout aimé la 2.
C'est
pas mal. On enchaîne.
Sullivan, au boulot.
Émilie m'avait proposé de regarder Spooks, mais pourquoi donc?
Disons que ça fait quelques années que... Enfin, un an, moi, que je te dis que Spooks est bien, et Dom, je crois que ça fait quelques années qu'il te harcèle avec ça. Donc,
ça fait 3 ans et demi, très voilà. Exactement.
Donc allons-y, hein. Il était temps, surtout les premières saisons. Nous reviendrons sur le reste plus tard, mais les 3 premières, tu peux les regarder.
Et donc, j'ai enfin vu la première saison de Spooks. Et allez, je suis direct et je suis honnête. Si ça n'avait pas été pour le podcast, je suis pas sûr que j'aurais été jusqu'au bout. Bon, alors.
Il faut être honnête.
Excusez-moi, je suis en train de m'étrangler.
Ouais, je sais. Bon, allez, soyons clairs, c'est un programme de qualité, c'est une bonne série, et je l'ai vu et je m'en suis rendu compte. Le problème est un petit peu celui que Dominique a posé en introduction de Clara Scheller. Je pense que j'ai vu la série trop tard. La première saison de Spooks a presque, enfin c'est la 9e saison qui passe là, donc voilà.
Presque 10 ans.
La saison date de 2002, c'est presque 10 ans.
Je l'ai vu il y a un an, moi ça m'avait pas choqué.
Et ben moi j'ai trouvé, je pense que c'est pas la même chose quand on la revoit. J'ai trouvé que tout ça est quand même assez considérablement vieilli, pour deux raisons. La première, c'est que 2002, on est encore au tout début de 24 heures chrono par exemple, etc. Donc toute la vague série d'espionnage. Et vraiment, il y a eu Alias déjà, mais bon, ouais. Alias c'était quand même quelque chose vraiment à
c'est
part.
Chose, hein, c'était oui. Plus on n'était pas sur la vague post 2000,
post 11 septembre. Voilà. Et donc tout un tas de choses qui probablement semblait assez nouvelle à l'époque. Moi, aujourd'hui, les histoires, les 6 intrigues de la saison 1, elles sont assez génériques et j'ai eu l'impression que je les avais déjà vues 40 fois chacune. Donc du coup j'avais un peu de mal et j'ai eu ce qui a pas aidé, c'est que le premier épisode en fait est centré sur une intrigue que j'ai trouvé complètement improbable et avec la, j'ai pas du tout réussi à adhérer. C'est une histoire de militante anti-avortement américaine qui se retrouve sur le sol anglais déjà à bon et qui en plus a 20 bombes à faire péter. Oh putain,
ils ont des moyens. Hein.
C'est ça, la Sarah Palin, elle est costaud quoi. Et donc voilà. Enfin, l'intrigue en elle-même, j'ai trouvé ça improbable et j'ai voilà. Du coup, c'était assez dur. Et le premier épisode, il est quand même vraiment porté sur son intrigue. Donc du coup, c'était pas facile. Par contre, le premier épisode quand même pose le personnage de Tom Quinn, qui est un personnage magnifique, formidable, interprété génialement. Comment s'appelle cet acteur?
Matthew McFadden.
Non, je ne suis pas fan. C'est faux.
Il est formidable. Faux. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il est à 100% crédible en tant qu'espion. Oui. Et à 100% crédible en tant que père de famille dans les scènes intimes. Quoi. Et donc voilà. Et donc franchement, ce qui m'a un peu tenu à bout de bras accroché à la première saison de Spooks,
c'est Tom Quinn.
Ouais. Et quelquefois, enfin, il y avait donc presque tous les épisodes de la saison, on suit ce qui est donc il est tombé amoureux d'une femme qui connaît pas son métier. Et en gros, quand la saison commence, il en arrive au point où la relation, elle s'est installée dans le temps, elle est devenue vraiment sérieuse, donc il va bien falloir lui dire la vérité, quoi. Et donc voilà, on prend l'histoire à ce moment-là.
Ouais.
C'est vraiment, c'est poignant, c'est touchant, c'est bien écrit, c'est bien fait. Et donc, en gros, il y a 20% de tous les épisodes qui sont consacrés à ça sur la saison.
À peu près.
Et le reste, ben, c'est les 80%, c'est l'intrigue de l'épisode. Et voilà, le côté un peu négatif, c'est que des fois, je regardais les 80% de l'épisode en attendant désespérément qu'on en revienne aux 20% qui m'intéressaient vraiment. Encore une fois, je pense vraiment que mon point de vue aurait été différent si j'avais vu la série en 2002, parce qu'il y a plein d'intrigues qui m'auraient intéressé. Alors aussi, il y en a quand même plusieurs dans la saison qui m'ont vraiment plu. Celle qui m'a le plus plu, c'est celle du deuxième épisode, qui est un vrai choc, quoi. C'est une intrigue avec des militants de l'IRA, et il se passe un truc, vous avez tous vu Spooks, les gens qui écoutent, sinon vous mettez la main sur les oreilles. Donc il y a une espèce de petite collègue qu'ils ont fait monter dans l'affaire, alors qu'elle c'est pas un agent de terrain d'habitude. C'est plutôt une espèce de secrétaire améliorée, quoi.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
Et donc là, ils avaient besoin pour le prendre sur le couverture, ça devait être simple, pas trop dur, etc. Et sauf qu'ils se font démasquer, et donc il y a cette scène où Tom Quinn est attaché, et en face, c'est sa pauvre collègue qui l'a embrigadé là-dedans. Et le méchant, dans un premier temps, il veut faire parler Tom Quinn, ouais. Et il la menace, ils sont près d'une friteuse industrielle. Et en fait, on se dit, il va parler, enfin, ils vont s'en sortir, quoi. Et là, le méchant lui fout la main. Dans la friteuse et ça ressort la petite main sanguinolente qu'on voit pendant un plan d'une demi-seconde et tout, et déjà ça on se dit waouh, enfin on est vraiment sous le choc, quoi. Et 30 secondes après, le méchant fout la tête de la nana dans le bain d'huile. C'est horrible, c'est un choc incroyable. On s'attend pas du tout à voir ça.
Il y a rien qui prépare à cet événement là et le personnage, pendant tout l'épisode, sans qu'on se rende compte qu'elle va avoir une fin horrible, on nous la présente, on nous fait vraiment rentrer en empathie avec elle.
En fait, on est persuadé qu'on va avoir droit à la petite intrigue habituelle.
Tout à fait.
De pour la première fois, la secrétaire améliorée va un petit peu sur le terrain. Elle va être un peu maladroite.
Une ébauche de relation amoureuse parce qu'elle essaye. Elle tente sa chance avec Tom Quinn.
On s'attend à ce que ce soit ça, en fait.
Que ça soit super basique, qu'il la rejette, qu'elle s'accroche ou quoi. Et non, ils nous prennent complètement à rebours. Et c'est vrai que
Enfin, il y a tout ce côté-là par rapport à ce personnage-là, et même l'empathie par rapport à Tom Quinn, qui, encore une fois, il y a toute cette réaction, tout ce process sur lui, parce que lui se retrouve donc à avoir, qui est quand même le responsable, en fait, de l'équipe.
Ouais.
Il a ce poids, et c'est lui qui a monté l'opération, etc. Donc il a cette responsabilité, il se sent responsable de ce qui s'est passé, surtout que lui s'en sort. Il réussit au moment où il va se faire aussi griller, quoi, à ce que la personne... qu'ils ont petit à petit commencé à infiltrer, le sauve. Et il y a cette fuite, il y a cette collègue qui le retrouve dans l'état où il est. Et oui, ce personnage-là, il est splendide. Il y a toute cette réflexion sur le métier d'espion, etc.
Enfin, il y a une succession de super petites scènes, dont une où tu as le personnage de. Alors, je ne vais plus me souvenir de son prénom, mais bon, c'est un des agents qui est en fait le colocataire de cette fille qui vient de se faire dessouder. Et sa réaction, c'est de se dire. Et c'est une réaction après coup, quoi. Il n'a pas vraiment de réflexion sur le moment, quoi. Il accuse pas et il dit comment je vais faire pour la colocation.
Tu voudrais pas devenir ma colocataire
à l'autre agente qui s'offusque complètement de cette réaction.
Et l'un des problèmes aussi, c'est que pour moi, ça a quasiment été la seule scène de la saison où l'autre agente
l'ai remarqué.
Où elle m'a pas semblé un peu transparente, parce que donc elle gueule contre le collègue qui lui a proposé ça. Et du coup, à part Tom Quinn, les personnages, je les ai trouvés assez peu développés dans la saison, à l'exception de ce fameux collègue là qui a un rapport à l'argent assez compliqué.
Oui.
Et donc du coup, lui, il est développé, mais il est de façon volontaire. Il est développé pour pas être fait, enfin pour pas être sympathique, quoi, pour pas qu'on s'attache. Enfin, on s'attache un peu à lui à la fin, on n'est pas dans un rapport très proche avec lui. Et les autres personnages, il y a la patronne plus ou moins, enfin pas la patronne, mais une grade élevée qui est vraiment très très froide. Donc voilà, t'as la petite collègue qui est gentille mais qui est transparente, quoi. Et t'as le chef qui est dans un rôle pour l'instant vraiment standard de chef, quoi.
Mais alors ce qui est marrant, c'est quand on reprend 9 années de Spook, c'est qu'on entend que les personnages de la première saison sont pas très très bien brossés, et quand on repense à tous ces personnages qui ont eu 2 ou 3 saisons, ils n'ont strictement rien eu à faire que pianoter sur des claviers, qui étaient quand même présentés comme des personnages importants,
qui étaient 10 fois moins bien écrits qu'eux,
qui étaient 10 fois moins bien écrits qu'eux, et j'imagine même pas le choc que tu risques d'avoir. Arrive en saison 3. 4.
Arrête-toi à la 3.
Disons
que cette saison 1, moi j'aurais voulu que tu regardes aussi à l'occasion, si tu peux, dans la 2, surtout l'épisode 5, qui moi,
revenez sur notre best-of.
Voilà,
c'est Icepie Apocalypse,
il est incroyable cet épisode.
Bon, ça dit, honnêtement, je vais continuer parce que je suis bien accroché par Tom Quinn.
Je ne peux pas ne pas accrocher.
Franchement, si je pouvais réécrire l'histoire, le cliffhanger de la saison 1 m'emmerde. Ça me fait vachement chier que la famille.
Il va y avoir d'autres problématiques après.
Regarde la saison 2.
Eh ben, on va voir ça. Mais j'étais vraiment attaché à cette nana, à cette famille.
Vous venez d'avoir la preuve que Sullivan Le Postec ne lit pas les critiques des autres. Voilà.
Il ne veut pas spoiler. Il avait espoir de regarder un jour.
Exactement, je ne me spoil
non.
pas.
Non, mais il a bien fait.
Globalement, ce qui est fascinant, c'est qu'ils arrivent, ce personnage à qui ils ont déjà donné cette épaisseur sur 6 épisodes, ils arrivent à le développer, à le faire évoluer et à nous emmener avec lui. Enfin, on est dans sa tête, on est dans sa réflexion, au fur et à mesure, dans ce que cette vie, dans ce que ses rencontres, au fur et à mesure, dans ce que ses épreuves lui font subir, et où est-ce qu'il en arrive dans son process. Et ça, c'est absolument fascinant à quel point il nous embarque là-dedans, quoi.
Et pour le coup, parce que j'ai lu après ton papier sur la saison de Spook, parce que donc Dominique a critiqué toutes les saisons de Spook, il y a un dossier sur le site.
Il va peut-être pas toutes les critiquer au final, hein. On vous en parlera plus tard.
Bah, déjà,
ça va aller, Dominique, ça va aller.
T'avais fait un combo déjà.
Oui, déjà, j'ai déjà un joker.
Et donc cette question des multiples identités dans la saison.
Oui.
Qui apporte plein de scènes. Enfin, oui, cette petite, magnifique, superbe scène avec l'enfant de la femme avec qui Tom Quinn est là. Et où il explique que donc c'était pas son vrai nom. Et qui lui dit: mais pourquoi tu m'as pas dit ton vrai nom? Et il dit: ben Matthew, c'était mon nom secret. Et l'enfant: ben non, c'est Tom, ton nom secret, parce que c'est celui-là que je connaissais pas. Mmh. Qu'est-ce qui est mon nom secret ou pas mon nom secret? Quelle est mon identité secrète ou ma vraie identité?
Tu auras cette problématique qui va être traînée sur les 3 saisons en question, et qui a un vrai fond, qui a une vraie profondeur sur ce personnage.
Mmh. Allez, donc c'était qu'un début pour Spooks, que je l'ai vu trop tard, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de qualité, et maintenant que j'ai lancé ça, j'ai vu ça très récemment cette semaine, donc je vais pouvoir enchaîner avec la suite, ou une partie de la suite, parce que mes collègues qui donc regardent la saison 9 actuellement en diffusion sont absolument navrés et au bord du désespoir.
La saison 9 de Spooks démarre sous les pires auspices.
J'en suis plus loin et ça continue pareil.
Il nous reste encore à évoquer la série que j'ai proposée à Dominique de regarder, celle qu'il a proposée à Émilie de regarder et celle qu'il m'a proposée à moi de regarder. On fera tout ça dans la deuxième partie de ce podcast. À tout de suite, peut-être.